Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur Radio Emma. Nous sommes le 16 octobre 2017 avec l'hôpital de jour. Alors, en régie avec moi...
En effectif réduit.
Maxime.
Élève infirmier en troisième année. Et Mao qui est avec nous derrière. En studio, il y a...
Céline.
Ouais.
Benjamin.
Adrien.
Et Ludwig.
Salut à tous, et c'est vrai qu'on est en effectif réduit. Mais on s'en fout parce que c'est pas la quantité, mais la qualité qui compte. Alors, on va s'écouter tout de suite la chanson que, effectivement, Benjamin avait programmée, mais qu'on n'a pas pu passer il y a 2 semaines. Kenny Loggins, Danger Zone, c'est qui, c'est quoi, c'est qu'est-ce ?
Bah, c'est une chanson de Top Gun, voilà.
Oh,
ah. Oh, du film Top Gun ?
Oui.
D'accord.
Et celle qui fait Highway to the Danger Zone.
Ah, c'est celle-là.
Voilà, j'arrête pas de vous chanter, même la dernière fois qu'on l'avait passé.
Prends un micro de chant.
Et personne... Personne ne comprenait.
Oh, nous sommes tristes pour toi.
Ouais.
Tu es un incompris.
Artiste incompris.
Mais ça y est, maintenant on a compris.
Wow.
Ça a fallu du temps, mais maintenant on a compris. Allez, on s'écoute. The Highway to the Danger Zone. C'est parti par Kenny Loggins. Big and you're detaching, girl. High. Kenny Loggins, Highway to the Danger Zone. J'adore parce qu'en fait, le chanteur, il s'est pris pour Tom Cruise, quoi.
Oui.
Tom Cruise du pauvre.
Tom Cruise du pauvre.
Tom Cruise du pauvre.
Tom Cruise du pauvre, pourquoi pas. Tom Cruise.
Oh là là.
Ha.
Oui, oh, ça va. Ha. Non, mais du coup, c'est assez rigolo parce qu'il a quand même la bonne coupe des années 80. Et il fait les postures à peu près comme l'autre, quoi. Enfin, le mec s'est pris pour voilà, Top Gun, ouais. Quoi. Tu sais, tu sens la frustration, mais allez voir le clip, hein. Franchement, ça vaut le coup au niveau.
Allez voir le clip sur.
Sur l'onglet, la playlist.
Bah oui.
Wow. Parce que voilà, c'est là parce que sinon, on vous êtes... tous les clips.
Parce que là, par contre, vous n'êtes pas déjà sur la playlist.
Ah, ah. Donc voilà, non, mais pourquoi pas. Est-ce que toi, t'es branché un peu avion et tout ça?
Ah oui, bien sûr. Ouais. Moi, je veux devenir ingénieur en aéronautique. Donc,
oh!
Ah, on... Pour de bon?
Ah bah ça tombe bien parce qu'Adrien aussi.
Bien sûr.
Hein. Non.
Il adore les avions. J'adore les avions.
J'ai fait le BIA en seconde, brevet d'initiation aéronautique. Voilà. J'ai eu les félicitations du jury. Donc,
mais non.
Aspect.
Je suis bien.
Waouh. Bien
débrouillé. En
alors ça consiste en quoi?
Bah,
oui, très bonne question.
Bah un peu tout, la navigation, les phénomènes.
C'était quoi le premier?
L'aérodynamisme. La navigation, c'est toutes les règles qui encadrent. C'est pas les règles. On voit en gros ce qui se passe en civil.
Ouais.
Et puis, surtout pour le loisir, pas pour les règles des avions de ligne, etc. C'est plutôt pour faire un brevet aéronautique, mais pour conduire, enfin piloter un avion. Quoi,
d'accord.
Après, par la suite.
Ouais. Waouh. Tu sais qu'en plus, une des épreuves quand tu vas être ingénieur aéronautique, c'est la simulation.
Oui.
Et tu fais du pilotage, quoi. C'est assez rigolo. T'es dans une fausse cabine et tu simules un décollage. Mais du coup, t'as passé. Je savais même pas que c'était possible de passer ça à ce niveau-là en seconde ou quoi.
Non, mais voilà, c'est l'initiation et puis c'est utile pour aller dans les écoles ou faire par exemple un BTS aéronautique. Je sais qu'il y en a au lycée à Vitrolles.
D'accord.
Voilà.
Mais en fait,
Mendes France, voilà.
D'accord. Toi, tu as une intention particulière.
Après, il y a d'autres écoles à Toulouse. Mais
ouais,
bon, là, ça,
bien
c'est,
sûr. Bien sûr, c'est l'école.
Voilà. Après, il y a les écoles militaires à Istres.
Uh-huh.
Voilà.
Effectivement. Ouais. C'est assez drôle ça parce que je dois faire venir une ingénieure aéronautique. Non, mais je ne présente pas. Oui, oui. Ouais. Mais je pensais pas la faire avec votre groupe. En fait, le principe de. Ouais.
Elle a tous les contacts.
Tu m'étonnes. C'est tout un arsenal. L'idée de cette invitation, elle est en deux temps. Mais dites-moi si ça vous intéresse. Et dans ces cas-là, on peut la boucler ensemble.
Bien sûr, ouais,
je
moi,
t'explique.
Ça m'intéresse.
Alors, elle, l'idée, c'est qu'elle vienne. Et il se trouve que c'est une fille, mais qui a aussi toujours voulu faire ça. Donc, son parcours est très intéressant. Mmh. Et aussi par rapport à son adolescence. Parce qu'en fait, depuis l'adolescence, déjà, un peu comme ce que tu fais toi, en fait, elle prévoyait de le faire. Et elle l'a fait. Et tout le principe, c'est qu'elle raconte ça à travers une interview où vous l'interviewez. Et la deuxième partie, c'est qu'elle nous fasse visiter, qu'on aille, nous, à Aix, voir le centre de contrôle, en fait, de l'aéronautique de
d'accord.
Marseille. Sachant que ça ne se passe pas à Marignane, mais à Aix, ce qui est assez troublant. On est dans un sous-sol et c'est de là qu'on gère tous les circuits aéronautiques.
Donc, si j'appuie sur un bouton, je peux faire cracher un avion.
Exactement. Et en fait, elle propose même qu'on discute pendant qu'il est en vol avec un pilote.
Ah ouais.
Tu vois, et qu'on soit en lien avec un pilote pendant qu'il est en vol, parce que c'est possible depuis la salle des contrôles. Est-ce que ça vous intéresse donc ?
C'est cool.
C'est vrai ?
Oui.
Je suis pour.
Vous êtes pour ?
Ouais.
C'est cool. Ah bah ok. Et donc toi, oui. À fond. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le.
Ah.
Ouais.
Je suis disons qu'en ce moment, je suis pas trop en forme.
Mais tu sais que c'est pas forcément pour tout de suite.
Voilà. Oui, après, voilà.
Ça peut se faire dans l'année, quand on veut.
Oui.
Sachant que, tu sais, est-ce que la partie aussi d'aller là-bas, ça t'intéresse ?
Oui, bien sûr, oui.
Donc, dans le principe, est-ce que ça t'intéresse ?
Oui, bien sûr, dans le principe, oui.
Alors, il n'y a aucune urgence, c'est simplement de savoir que c'est possible et que c'est avec vous que ça peut se faire.
D'accord.
Ça peut être au printemps, ça peut être, tu vois, un moment où tu es un peu plus en forme d'ici là et pour apprécier vraiment le truc.
Oui.
Mais le concept en fait de ce truc-là est assez chouette.
D'accord.
Bon, mais je savais pas du tout que t'étais passionné comme ça d'aéronautique. C'est intéressant. Et alors, pardonne-moi, mais du coup, avec tes yeux, comment ça peut se passer tout ça ? T'as réfléchi à la question, je suppose.
Pour l'instant, c'est compliqué, quoi.
Et oui.
J'ai pas réfléchi. Pour l'instant, c'est en suspens. Voilà.
On t'en a. Toi, en fait, c'est quoi le truc dont tu souffres ?
Ça s'appelle le syndrome d'Irlen.
C'est quoi ?
C'est un syndrome, enfin, voilà, donc il peut y avoir plusieurs raisons à ce syndrome. Mais moi, dans mon cas, il n'y a pas de raison. En fait, ça peut arriver pendant la puberté.
Ouais.
Et donc, on est plutôt sensible à une certaine longueur d'onde. Et moi, je suis sensible au vert.
D'accord.
Et qui est notamment, enfin, dans la lumière du soleil. En fait, c'est tout dans la proportion.
Ouais.
Si, par exemple, dans la lumière du soleil, c'est un spectre continu. Mmh. Donc, ça va à peu près. Mais par exemple, quand il s'agit des LED, des fluorescents, les halogènes un peu moins et incandescentes encore moins, eh ben, il y a des pics.
Ouais.
Et ces pics, ben, c'est comme des lasers pour moi, en fait.
Mmh.
Et donc, du coup, j'ai des maux de tête, j'ai des problèmes pour lire dans les LED, le fluorescent. C'est pour ça que je ne peux plus aller au lycée, d'ailleurs.
Oh voilà. Non voilà. Pour ça ?
Ouais.
Waouh !
Enfin, j'ai commencé à voir ça au début de la puberté, en quatrième.
Ah ouais ? T'avais quel âge ?
Mais voilà, c'était pas grand-chose. Je me disais, voilà, c'est pas très grave. J'avais juste quelques lettres. Enfin, voilà, ça bougeait un petit peu. Voilà, je me suis dit, c'est pas très, très grave. J'arrivais à lire, j'avais pas trop de maux de tête.
Mm-hmm.
Et puis voilà, après, en seconde, au premier trimestre, ça allait. Et puis après, voilà, c'est venu de plus en plus fort. Et puis voilà. Donc,
T'avais quel âge à ce moment-là ?
J'avais 15 ans. Enfin, voilà, c'est l'année dernière, quoi.
Mm. D'accord. Waouh ! Et du coup, ça se répare, ça se traite, comment ça se passe ?
Bah, y a pas de traitement, en fait.
Ou ça part tout seul ?
Soit ça passe, soit on... En général, ouais, ça passe, parce que c'est souvent en puberté ou...
C'est pour ça, ouais.
Il y en a d'autres qui sont depuis la naissance, voilà.
D'accord. Parce que je sais que pour l'aéronautique, c'est toujours très compliqué. La question des yeux, il faut être 10 sur 10, impeccable.
Ah bah moi, j'ai pas de problème d'acuité.
Pas daltonien,
rien
de
tout
ça.
J'ai pas de problème d'acuité ni de daltonisme, j'ai rien par rapport à ça. C'est surtout, en fait, un stress visuel.
Ah mais t'imagines que pour piloter, ça peut être un problème, quoi.
Mais voilà, mais de toute façon, moi, je veux pas devenir pilote.
C'est ce que je te demandais tout à l'heure. Est-ce que tu as une idée de ce que tu veux faire dans l'aéronautique ?
Oui, donc ingénieur en maintenance. Donc,
d'accord.
Pour les Airbus, voilà, c'est pour... Ouais, la maintenance, quoi, pour tout ce qui est réparation.
Ouais, pilote, c'est hyper compliqué d'être pilote, non ?
Voilà. Oui, bien sûr.
Ouais.
C'est très stressant aussi.
Ouais. Mais du coup, ça veut dire que tu es au sol, que ça n'engage pas tes yeux et que du coup, c'est tout à fait envisageable ?
Pour l'instant, non, c'est pas envisageable du tout.
Ah, à cause de ça ?
Ah oui, non, je peux pas faire grand-chose, moi, là.
C'est-à-dire que ça ou autre chose, parce que pour l'instant, tu es coincé à cause de l'effet des lumières.
Voilà, c'est ça.
Ah non, mais il faut que ça répare, cette histoire, c'est pas possible. C'est genre, mais oui, bien sûr.
Non, mais voilà, j'espère. Et puis de toute façon, parfois, j'ai des améliorations. Donc je me dis que ça peut partir aussi vite que c'est venu, quoi.
Mm. Bah, je te le souhaite.
Ouais.
Et surtout, s'il n'y a pas d'autres solutions par rapport à ça.
Non. En fait, en France, il y a quelques spécialistes, mais voilà, c'est surtout en Angleterre, aux États-Unis, qui font vraiment des recherches. Mais même là-bas, ils n'ont pas la solution.
Eh ben, écoute, en tout cas, bon, d'abord, je te souhaite bien sûr que ça se répare, et puis surtout que tu trouves une solution, parce que si, les gens qui donc vivent avec ça, est-ce qu'ils arrivent quand même à avoir un métier en s'adaptant ?
Il y a des degrés, en fait.
Oui, c'est ça.
Ça veut dire qu'il y en a qui par exemple, Johnny Depp, là,
et ah bon
il n'a pas vraiment de problème.
Avec les projecteurs, enfin, voilà, avec tout ça, il a réussi à...
Il a des lunettes, mais voilà, il n'a pas le même degré de sensibilité que moi.
Mm-hmm.
Voilà, après...
C'est cool. C'est par exemple, de se dire que Johnny Depp, là aussi.
Non, mais moi, si jamais j'avais vécu, admettons, au 19e siècle, j'aurais pas eu de problème.
T'étais peinard, oui.
Voilà, c'est juste qu'aujourd'hui, maintenant, il y a une culture de la lumière, toujours plus de lumière... Quand je vais au lycée, je suis choqué parce que c'est la lumière partout.
Ah oui,
oui. Même pour des personnes normales, ça peut abîmer la rétine.
Et oui.
Voilà, ça peut être très dangereux.
Mais... Et les écrans d'ordinateur ?
Bah, pareil, c'est pas bon.
J'imagine que c'est pas très bon, effectivement. Mmh. Très, très, très intéressant de découvrir tout ça. Vraiment, je ne connaissais pas du tout cet aspect-là des choses, mais... On pourra continuer là-dessus ou sinon embrayer sur le sexisme. Okay. Mais entre-temps, on va s'écouter. Dream Theater, The Spirit Carries On. Ouais.
Alors, ouais, c'est une...
Comment dire ? Tu vas y arriver.
C'est une power ballade. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je sais que c'est ça.
Une ballade du pouvoir.
Non, c'est un
certain
style.
Non, c'est
genre... un style.
Ouais, mais justement, c'est un style. Power, ce serait quoi, dans ce sens ?
Je suis sûr quasiment tous les groupes de rock, metal et même plus, on en fait une ballade. Ça, c'est...
Bah, c'est le genre balade mélangé avec...
C'est une balade rock ?
Oh, plus... C'est balade.
Il y a power. C'est forcément un truc épique.
Ok, on verra.
Bon, on va se l'écouter, ouais. On va se l'écouter. Allez, c'est parti. Dream Theater, the spirit carries on.
Where did we come from? Why are we here? Where do we go when we die? What lies beyond? And what lay before? Is anything certain in life? They say life is too short, the here and the now, and you're only given one shot. But could there be more? Have I lived before? Or could this be all that we've got? If I died tomorrow, I'd be all right. Because I believe that after we're gone, the spirit carries on.
Dream Theater, the spirit carries on. J'arrive pas à le dire normalement parce que ça me fait vraiment penser
carry
à un trip épique, non, un peu Queen aussi, tu vois.
Ouais, c'est ce que j'avais dit.
Hein, il y a un côté
là,
comme
tout
ça.
Tout le truc de gospel en fond.
Gospel.
T'entends pas?
Ouais, le cœur. C'est ce rack. On est avec vous. Non, non, mais c'est vrai que c'est assez... ça va, quoi, ça s'écoute tranquille, hein. T'as un Dream Theater, ça va devenir nos copains, hein.
Non, mais ils ont de tout.
Ouais,
et de rien.
Assez... Non, franchement, c'est assez étonnant, tout, quoi. C'est assez variable, hein. Franchement, une grande variété. Mais bon, ok. Benjamin, tu valides ça?
Oui.
Ouais, ça va, t'as pris... Ouais.
Non, c'est pas très violent.
Non, franchement, non. Dans le genre...
Heureusement qu'elle n'est pas venue, Nathalie, aujourd'hui, hein. Parce que j'ai promis de lui casser les oreilles.
Ah, ah ouais, là, c'est mal barré. Mm. Et vous, ça va, ça avance, ça progresse, la musique, là?
Ouais.
Lentement, mais sûrement.
Ouais.
Chez Daniel, en fait, c'est un peu toujours la même chose. C'est plus pour s'amuser, en fait,
ouais,
que pour progresser.
Ah. Bah, c'est une façon de pratiquer, tu progresses forcément.
J'aurais peut-être vu, genre que nous deux, on vient un autre jour, je sens, nous, pour qu'on fasse des trucs plus à nous.
Ouais, effectivement.
Et parce que oui, c'est pour les non-initiés, ce gars, c'est John Petrucci et c'est notre dieu à tous, que vous vouliez ou non. Parce que le gars, il a fait Berkeley,
ah ouais, comme tous les bons.
Ouais, comme même comme notre du groupe, comme là, par exemple, le bat. Genre, à la base, c'est le guitariste, le batteur, le bassiste qui s'est rencontré à Berkeley.
Ouais.
On dirait le début d'une mauvaise blague.
Au contraire, on dirait le début d'une belle aventure. D'accord.
Et donc voilà.
Bon, et c'est marrant, c'est intéressant que tu parles de batteur comme ça parce que je voulais vous faire rencontrer un gars qui s'appelle E.J. Strickland, qui est un batteur de jazz de New York, qui est un mec extra et qui était à Marseille en ce moment. Et c'était un peu trop court pour le faire venir ce matin. Mais moi, je peux vous parler de lui parce qu'en fait, il a un parcours intéressant. Il est de Miami et en fait, il est frère jumeau avec un autre gars qui s'appelle Marcus Strickland, qui lui est saxophoniste. Mmh. Et donc, en fait, E.J., donc E.J., est devenu batteur, son frère saxophoniste. Et en fait... ils ont fait ce choix-là à l'âge de 12 ans, alors qu'en fait, ils étaient prédestinés par leurs parents pour être plutôt avocats et docteurs. Mm-hmm. Les parents les voyaient vraiment... Alors que les parents, en fait, étaient très, très, très artistes. Ils ont choisi des voies beaucoup plus sécurisantes avec des jobs, tu vois, d'avocats pareil et de profs. Enfin bref, donc ils ont joué la sécurité. Mais quand ils ont vu que leurs enfants étaient vraiment branchés musique et qu'ils avaient les moyens de les soutenir dans cette démarche-là, ils les ont soutenus et c'est ce qui eux les a aidés en fait à faire ce qu'ils ont voulu faire, ce qu'ils rêvaient de faire. Et en effet, ils sont devenus très 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 comment dire, ils ont réussi tous les deux vraiment dans leur domaine. Hein. On est dans le jazz là, mais Marcus Strickland et E.J. Strickland sont vraiment devenus deux grands musiciens de jazz. Donc l'histoire est assez belle. Et puis maintenant, voilà quoi, ça y est, ils sont lancés, ils sont sur des parcours. Ça fait des années qu'ils jouent, qu'ils tournent et que ça marche. Et dans les clubs les plus prestigieux du monde et etc. quoi, de Tokyo à Sydney, en passant par voilà, toute l'Europe, etc. Et donc voilà, ça c'était pour la petite histoire. Et c'est cette idée de se dire que quand on est convaincu depuis qu'on a 12 ans que c'est ça qu'on veut faire, finalement, et que nos parents nous soutiennent pour nous en donner les moyens, finalement, ça marche. Mais ce qui est juste drôle par rapport à ça, c'est que toute leur vie, ils ont été accueillis par leur oncle à chaque fois qu'ils allaient le visiter, l'oncle George, qui leur disait « Bonjour monsieur l'avocat, bonjour monsieur le docteur », et qu'ils n'ont jamais compris pourquoi il leur disait ça. Et que des années plus tard, une fois que ça y est, ils étaient lancés et que ça marchait pour eux en tant qu'artistes, en tant que musiciens, leur père leur a expliqué qu'en fait, ils les avaient toujours vus comme avocats et comme docteurs, mais qu'il ne leur avait jamais dit. Et qu'il les a laissés suivre leur voie. Et je trouve que c'est une très jolie histoire, parce que le père, qui était lui aussi un musicien, du coup frustré, parce que très mélomane, il leur a fait écouter... Enfin, il y avait toujours de la musique à la maison. Il était très heureux de voir que ses fils, finalement, il faisait son rêve à lui, et sans les pousser, sans forcément leur mettre la pression sur ça, mais au final, voilà, ils sont devenus tout à fait successful les deux, et tant mieux pour eux. Je vais vous faire écouter un petit bout là du quintet de E.J. Strickland. Vous allez un peu voir le bonhomme.
Gentlemen, welcome back to the Blue Note stage, E.J. Strickland.
Voilà, donc après ça devient très très jazz.
Laisse-le un peu en fond.
Voilà, je laisse un petit peu en fond sonore, effectivement. Ah, c'est cool. Bref, tout ça pour dire que ça bouge et qu'il se passe des choses et qu'il vous salue bien bas. Mais pourquoi pas le recevoir un jour ? Enfin, ça c'était pour la partie musicale. Mais c'est vrai, sinon, on parlait tout à l'heure vite fait de l'histoire de Harvey Weinstein. Est-ce que vous, ça vous fait réagir, cette histoire de gens qui sortent un petit peu du silence et qui parlent, et en sachant que toutes ces choses-là étaient sues depuis longtemps par tout le monde, mais que personne n'en parlait ?
J'ai remarqué aussi, c'est que même quand des personnes essaient de sortir, au début, je pensais qu'on les prouvait pour des fous, et on les disait, on disait que c'était faux dès le début. On niait leur histoire. Pas non plus. Et Courtney Love, rien qu'en 2005, elle avait déjà essayé de prévenir contre ça. C'était un gif, en gros, c'est un extrait d'un interview. En gros, on lui avait posé la question quel conseil avez-vous pour une jeune fille qui entre dans Hollywood ? Elle avait dit, je vais probablement recevoir un libelle si je dis ça, mais si c'est Harvey Weinstein qui vous propose 4 sons pour venir, alors n'acceptez pas.
Waouh ! Ah ouais !
Bien sûr, on disait qu'elle était folle et la personne croyait.
Que ce soit pas entendu, ça c'est sûr, parce que pendant des années, c'est des choses qui sont effectivement maintenues.
Peut-être qu'ils avaient peur pour leur carrière au début.
Bah, c'est tout le problème.
Ça gâche toute leur carrière.
Et qu'en plus, lui, en l'occurrence, il a arrosé les gens pour que les choses soient tues, quoi, tu vois, d'une manière générale. Il a fait en sorte que les choses ne soient pas...
Ouais, mais quel a été le déclic ?
Le déclic, c'est qu'il y a 2 journalistes femmes, en l'occurrence, qui avaient déjà commencé à faire un papier là-dessus il y a très longtemps, et que dans New York, pour le New York Times, et je ne sais pas si c'est Weinstein qui avait déjà commencé à mettre des pressions sur le journal, parce que c'est quand même quelqu'un de très puissant. Donc une fois que tu as beaucoup d'argent et que tu connais t'es dans des sphères, tu vois, des réseaux, là on parle au niveau même politique, au niveau présidentiel, FBI, quoi, si tu veux. Non, mais au niveau des appuis, tu vois, de très haut placé politique. Ça avait étouffé l'affaire.
D'accord.
Et là, justement, ils sont allés au-devant de ça et en se disant, bah, tant pis, maintenant ça suffit, il y en a marre, ça suffit qu'on n'en parle pas. Et donc, en fait, c'est 2 journalistes qui ont sorti le truc. Et ensuite, il y a eu encore un autre article dans le New Yorker. Et donc, bref, et tout ça pour dire qu'effectivement, à partir du moment où c'est sorti, ça a fait un énorme effet de boule de neige et ça devient cataclysmique à cette heure-ci. Parce que maintenant, c'est justement pas des choses qu'on nie ou pour lesquels on traite les gens de fous du tout, au contraire, c'est que tout le monde maintenant arrive à délier ses langues. Mais tu mentionnais un truc tout à l'heure, c'était le fait de dire que, enfin, je sais pas si c'était ça que tu disais tout à l'heure, Adrien, mais que ça n'arrive pas que dans le cinéma. Là, ça sort dans le cinéma, mais...
Non, c'est dans tous les... C'est dans tous les trucs de position de pouvoir.
De pouvoir. Alors, voilà, non, mais c'est ça, il y a des choses comme ça. Et en plus, là, il se trouve que le Weinstein en question, il a beaucoup d'argent. Et donc, le moyen d'étouffer les choses, mais dans les entreprises, dans les domaines dans lesquels ça se passe, ça arrive que les femmes harcèlent les hommes. Enfin, c'est quand même vachement... En proportion, c'est quand même beaucoup plus dans le sens que ça se passe. Donc, les hommes qui abusent de leur pouvoir sur les femmes et sans aucun système de t'as pas besoin de payer personne, quoi. Tu vois, juste... si tu parles, tu perds ton job, quoi. Là, il y a un truc qui est dit... On dit 95% des femmes qui, justement, dénoncent le harcèlement ou les abus ou les viols au travail quittent leur job. Soit parce qu'elles sont virées, soit parce qu'elles ne supportent plus l'ambiance dans laquelle elles sont. Donc 95% des femmes, finalement, sont une double victime. Et là, il y a un slogan qui dit « Il est temps que la peur change de camp ». Il est justement temps que ce soit les patrons ou les chefs haillons ou les petits gars qui ont un micro-pouvoir qui en abusent, qui commence un peu à flipper, justement. Parce que c'est vrai, c'est quand même pas juste de se dire ça. Je sais pas, Benjamin, toi, t'en penses quoi de...
Bien sûr, mais après, ouais, ces chiffres sont affolants. Après, je sais pas comment ils sont calculés, mais ouais, si c'est 95%...
Après, c'est un peu difficile de travailler avec la personne qui t'a violé, quoi.
C'est ça.
Enfin, voilà, c'est horrible.
Ou qui a essayé d'abuser de toi, ou qui a essayé de... Ouais.
Mais après, 95%, oui.
Oui, 95% des gens qui l'ont dit.
Ouais, c'est ça.
Parce qu'il y a des gens qui ne l'ont pas dit. Enfin,
oui, c'est une proportion dans une proportion. Ça veut dire que 95% sur 100% de femmes qui le disent, il y en a 5 qui restent à leur boulot et les autres qui partent, quoi. D'une façon ou d'une autre. Mais ça, c'est un des trucs, un des aspects. L'autre aspect, c'est surtout que maintenant, ce qui est en train de se passer, c'est marrant. C'est un peu comme un changement de société, tout de même. De se dire que parce que ça est sorti, le mec, en fait, il a été viré de sa propre boîte. Il a été viré de l'Académie des Oscars, ce qui est énormissime. En 91 ans d'histoire des Oscars, il y a un seul autre gars avant lui qui avait été viré, et il avait été viré parce qu'il diffusait sur Internet des films avant qu'ils soient diffusés aux Oscars.
Donc, ouais, c'est déjà moins grave que Weinstein.
Ah, c'est carrément moins grave, c'est une question d'éthique, tu vois, de, simplement de... Voilà. Alors, et là, on passe à un scandale sexuel, justement, où le type, en fait, il s'est avéré être un
connard, ouais, je peux y aller.
Voilà, et du coup, il a beau avoir ramassé 81 Oscars lui-même pour tous les films qu'il a produits.
Alors, c'est 81
Ouais, c'est un excellent producteur. Par ailleurs, il se trouve que c'est un excellent producteur de films et qu'il a produit d'excellents films et qui ont vraiment marché. Oui, oui, non, c'est pour ça que c'est un mec si puissant.
Il y a toujours un contraste.
Ouais, hein, c'est ouais, chier, hein.
Producteur, c'est différent de réalisateur. Donc, en fait, c'est, il fournit juste l'argent, c'est ça?
C'est pas, il fournit juste l'argent. S'il n'y avait pas de producteur, il n'y aurait pas de film.
Ouais, voilà.
C'est-à-dire qu'il permet aux réalisateurs d'accomplir leurs rêves. Ouais, mais c'est essentiel. C'est le nerf de la guerre.
C'est, un... ouais.
C'est horrible parce que c'est ce qui donne du pouvoir, hein, d'ailleurs. Par exemple, avant.
C'est un peu comme les banques.
C'est juste le truc, c'est qu'à Hollywood, avant, les films, ils étaient montés par les producteurs pour que ce soit plus commercial et plus vendeur. Tu vois, et c'est pour ça qu'on appelait ça, pour les quelques-uns qui arrivaient à monter leur propre film, les réalisateurs, on appelait ça le director's cut. Ça veut dire, c'est, voilà, c'est ça, c'est le réalisateur qui avait le mot tout. Final. T'avais déjà entendu parler de ça?
Ouais.
Et aussi, d'ailleurs, d'envoyer sur un truc. Est-ce que vous arrivez à dissocier l'art de la personne qui l'a faite?
Ça, c'est une question fondamentale. Excellente. Bravo, merci de l'avoir posée. Vous savez quoi? On va s'écouter un peu de musique et on revient là-dessus après. Parce que c'est une vraie grosse question. Si on s'écoutait Tinashe, Party Favors, on écoute. Allez, c'est parti. Tinashe, Party Favors. Alors, je reviens rapidement sur la question d'Adrien, est-ce que l'on peut dissocier l'homme de l'artiste ou l'artiste de ses convictions et
ou surtout même de l'art de l'artiste.
De l'art, oui, c'est ça. Enfin, l'art de l'homme ou
de la personne.
De la personne. Parce que vraiment, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous vous en pensez. Je veux juste vous donner deux trois exemples comme Céline, qui est un auteur très reconnu, mais dont on dit qu'il était antisémite. Enfin, dont on dit non, dont il se disait lui-même, il se réclamait de ça. Donc c'est difficile. Ah. Qui d'autre comme ça
Bertrand Cantat.
Très juste, effectivement. Noir Désir, chanteur, reconnu, acclamé, etc. Bam, il se frappe avec Marie Trintignant et il la laisse inconsciente faire une hémorragie interne, ne pas appeler la police, parlé, parce que aussi une des raisons, c'est que lui, il avait peur qu'on voit dans son sang le taux de drogue qu'il avait pris. Donc il a laissé la nuit passer et ces nuits où il aurait pu être sauvé s'il avait appelé les secours. C'est-à-dire qu'il soit violent entre eux, il n'empêche qu'il l'a défiguré à coups de 19 coups de poing, je crois. Plus de nez, plus de mâchoire, plus rien. Mm-hmm. Donc ça, déjà, de toute façon, quelle que soit la circonstance, inexcusable. Et surtout, ce qui est encore plus inexcusable, c'est qu'il l'a laissé mourir. Et qu'en fait, elle a fini par mourir le lendemain matin. Et quand les secours sont arrivés, c'était trop tard. Alors que, malgré tout, s'il l'avait appelé avant, elle aurait été sauvable. C'est ça qui est atroce,
mais c'est qu'il est intelligent, ce connard.
C'est enfin, tu vois, c'est ce que je trouve un des trucs les plus atroces de cette histoire, en plus, quoi. Bon, voilà. Donc... moi, je me tais, mais je vous laisse parler. Vraiment, ça m'intéresse.
Alors déjà, on parle de deux personnes que je connais pas du tout. Alors j'ai du mal à trouver un exemple.
Non, mais est-ce que déjà, ça t'évoque tout court?
Ben, je sais pas.
Une réflexion, quoi.
Je sais pas. Si je lis un livre de Céline, c'est un peu bizarre de dire ça, mais et qui me plaît beaucoup, qu'ensuite j'apprends qu'il est antisémite. Je sais pas. Est-ce que d'un coup, je me mets à détester le livre ou je sais pas.
C'est le cœur de la question.
Si j'ai aimé le livre. Vraiment, si j'ai aimé le livre, je pense que ça... Je sais pas. J'ai du mal à imaginer, en fait.
Mais souvent, par exemple, quand on parle de littérature qui date, c'est-à-dire il y a plusieurs siècles, souvent, on peut associer les personnages à des faits qu'on reproche maintenant. Mm-hmm. Ce qui fait que la culture n'était peut-être pas la même à l'époque. Bon, en ce qui concerne Céline, voilà, on ne peut pas lui pardonner ça. Mais par contre, l'œuvre qu'il a produite, voilà, c'est... Et par exemple, les auteurs avant, ou par exemple dans la littérature, par exemple au XVIe siècle, au XVIIe siècle, peut-être qu'ils cautionnaient, je sais pas moi, l'esclavage, et pourtant ils produisaient des œuvres.
Bah justement.
Enfin, souvent les artistes, maintenant, enfin, on leur reproche ça, mais si on reprochait, eh ben on n'aurait plus, enfin voilà, on n'aurait plus de lien avec l'histoire aussi. Un peu particulier.
Mmh. En même temps, il n'y a pas que eux qui sont symboliques de ce lien.
En fait, c'est vrai que dès qu'il y a un auteur ancien qui était un salaud, mais qui est super connu et tout ça...
Ouais.
Bon, je prends un exemple que là, je connais. Gauguin, vers la fin de sa vie, il avait une femme de 13 ans.
Ah, puis pas que ça. Il était, vers la fin de sa vie, c'était un processus pratiquement de proxénétisme, quoi. C'était affolant ce qu'il a fait à Gauguin à la fin de sa vie. Il était insupportable. Il a massacré les îles, il a une très très mauvaise réputation là-bas sur ces dernières années, quoi.
Donc, mais est-ce que pour autant, à partir du moment où on a su ça, on a détesté ces tabous, on les a fait brûler?
Et c'est vrai qu'il faisait de la pédophilie, et c'est vrai qu'il se contentait pas que d'une femme, et c'est vrai qu'il a fait comme ça beaucoup d'abus, pour le coup, et pas que sexuels, il prenait beaucoup de drogue, il buvait énormément, enfin c'était une déchéance absolue, quoi. Alors maintenant, est-ce qu'on va ne pas aimer ces étoiles?
Voilà, non, mais je parle du patrimoine culturel, en fait. Ça veut dire que si on les
rejette,
ben on perd peut-être un petit peu quelque chose.
À quoi on est prêt à renoncer?
Voilà, c'est... oui, enfin, même j'avais déjà entendu parler de ça. C'est... en concernant l'esclavage, il y a beaucoup d'artistes qui étaient pour ça, et pourtant, ils ont fait des choses révolutionnaires pour l'époque. Enfin, c'était...
À l'époque où l'esclavage était commun.
C'était toujours, en fait... il y avait deux facettes, en fait.
C'est intéressant, parce que justement, s'il y a des gens qui se sont battus pour que l'esclavage... Pardon, Adrien, excuse-moi. S'il y a des gens qui se sont battus, même si l'esclavage était une pratique, si tu veux, commune, bon, la valeur de ceux qui ont fait changer les choses, c'est qu'ils se sont, pourtant, tout artiste qu'ils puissent avoir été, ils se sont aussi érigés contre ça, contre ce système.
Oui,
ils ont fait
tous.
Bouger les lignes.
Mais pas
non,
tous.
Mais voilà, c'est
donc,
grâce à certains que ces lignes ont bougé.
Est-ce que ça veut dire que ceux qui cautionnaient ont détesté d'un coup tout ce qu'ils ont fait? On a brûlé leur œuvre et tout ça. Je sais pas. c'est difficile. En fait, c'est limite un choix moral, quoi.
Mais c'est totalement un choix moral. Il y a un film comme ça qui s'appelle Taking Sides, pardon. C'est exactement ça.
Un truc que Benjamin disait au genre début, c'est pour tout le temps qui était à la norme à l'époque, je pense que souvent ce qui est fait, c'est ce qu'on appelle le présentisme, c'est-à-dire c'est de mettre les valeurs morales et lois d'aujourd'hui et les appliquer à une à des périodes anciennes où c'était.
Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Est-ce qu'on peut juger maintenant quelque chose qui se passait à une époque alors qu'on n'était pas dans le même système de valeurs morales?
Plus c'est même d'appliquer les lois d'aujourd'hui à l'époque.
Ouais, et en même temps, quand on y réfléchit, l'esclavagisme, c'était pas bien à l'époque non plus. Même si c'était intégré dans la société.
Moralement, c'était pas bon, mais légalement, c'était OK. Et c'était intégré dans la société.
Et donc, qu'est-ce qui a fait que les choses ont changé?
Mais c'est bien parce qu'on se rend compte qu'on a progressé et peut-être dans l'avenir, et ben, y aura même des artistes aujourd'hui qui seront complètement. On les critiquera beaucoup. Enfin, j'imagine, parce qu'il y a encore plein de choses qui vont mal maintenant, mais qui sont peut-être cautionnées, on ne s'en rend pas forcément compte.
Le cas d'Harvey Weinstein, c'est exactement ça. Ça veut dire que le mec, ça fait 30 ans qu'il abuse de son pouvoir sur les femmes et que personne n'osait ou arrivait à faire entendre sa voix et que maintenant, les choses sont en train de changer. Donc, c'est-à-dire que ces crimes-là ne sont plus impunis. Parce que là, on ouvre des enquêtes, justement, sur ses agissements à lui, ce qui était impensable il y a encore 10 ans, tu vois.
Ouais.
Où il y a même 5 ans, enfin, c'était impensable. Et c'est un truc qui est complètement contemporain, c'est vraiment de maintenant, tu vois. Mais moi, je ne sais pas, c'est par exemple, c'était plus excusé parce que c'était plus admis ou plus légal.
Parce que les deux.
Mais c'est l'ignorance. À l'époque, c'était légal et...
Non, il n'y avait pas une ignorance, justement.
Non, mais...
Il y avait déjà des gens à l'époque, je parle des États-Unis, par exemple, tu vois. Quand on pendait des Noirs juste parce qu'ils avaient levé leur regard, leurs yeux sur une personne blanche dans la rue, sur une femme blanche, on leur reprochait d'avoir souillé cette femme et on allait les pendre sur des arbres. Est-ce que tu imagines ce que ça veut dire? Tu vois des gens qu'on fouettait.
Mais c'était légal.
Et c'était, en tout cas, tout à fait toléré et accepté, en particulier dans les États du Sud. Et bien ça révoltait déjà pas mal de gens à l'époque.
Mais surtout,
et pourtant, c'était dans leur époque.
Mais il y en a qui ça révoltait pas. C'est un problème d'éducation, hein, parce que sûrement il y avait des cours de morale.
Si t'es né depuis.
Oui, il y en a qui ça révoltait pas. Tu m'étonnes, il y a ceux qui le. Mais excusez-moi, mais je veux dire, c'est encore le cas en Iran, en ce moment, tu vois. Je veux dire, dont on estime qu'ils sont contre le régime et qu'on pend en place publique, maintenant. Ou, tu vois, dans les années 80, avec.
Même les trucs même les trucs j'ai complètement absurdes, genre par exemple, souvent des trucs comme l'Iran, l'Arabie Saoudite, si une femme se fait violer, on l'accuse d'adultère.
Et on va la lapider.
Voilà.
C'est insupportable, ces choses-là, tu vois. Et pourtant, ça arrive maintenant. Et le système de valeurs, il est quand même. Tu vois, et ça a beau être toléré sur place parce que c'est la loi du pays. Ouais. Ça reste insupportable. Donc, qu'il y a du présentisme, c'est intéressant de comparer les systèmes de valeurs par rapport aux époques, mais les faits, ils sont quand même là. Après, distinguer ça de l'art.
Et après, je vais revenir enfin dire mon empire, ce que je veux dire. Moi, j'arrive à dissocier l'art de la personne du moment que c'est vu, que la personne fait, ça ne rentre pas dans son art. Je
comprends.
Il y a un groupe qui s'appelle Burzum, bon, c'est pas vraiment un groupe parce qu'il y a qu'un seul gars, Varg Vikernes. Le gars était vachement connu pour le fait qu'il avait tué le leader d'un autre groupe du même genre, ça fait le black metal. Et ce gars, il est aussi suprémaciste blanc et raciste.
Il est assassin, suprémaciste blanc et raciste.
Oui, il avait fait 20.
Tout va bien, la totale.
Le gars, il avait fait quand même 27 ans de prison.
Ah, bah voilà. 27. D'accord. Et alors?
Sa musique, je t'en ai contre ça parce qu'il y a beaucoup qui l'associent avec lui et les choses qu'il a faites. Moi, j'arrive à dissocier, mais je sens quoi. Parce que je sens cette petite musique, le black metal, ce qui est caractérisé par le fait que c'est sataniste, tout ça, donc ça parle pas vraiment de.
Ouais, mais là, tu peux faire le lien. Là, c'est un exemple.
Là, c'est lié pas. C'est. Déjà dans sa musique, il sort pas ses idées racistes, il met pas le fait que « ouais, j'ai tué ce gars, je suis trop content ». Non, il met pas ce truc-là. Donc moi, j'arrive à dissocier l'art de la personne.
Tu penses que dans sa musique, il n'y a rien qui véhicule le message de ses idées?
Bon, si t'arrives à comprendre ce qu'il dit, mais bon.
Ah ah. Faut l'écouter à l'envers.
C'est en anglais, surtout. Surtout la manière dont c'est chanté, c'est affreux. Personnellement, j'aime pas j'aime absolument pas sa musique. Mais il sort pas ses idées dans sa musique. Et moi, donc là, j'arrive à tolérer la musique.
Et donc?
Ben...
C'est compliqué, hein? C'est pas facile.
Il faut essayer de garder la culture.
Moi, je peux essayer de dissocier les deux. Franchement, si demain ma musique préférée, les auteurs de ma musique préférée, bon, j'en ai pas en tête, mais je sais pas, moi, si on apprend que tous les membres de Led Zeppelin, c'était des. Je sais pas,
des nazis.
Ouais, des nazis, voilà. Oula. Bon, ça ferait quand même un gros choc, mais je pourrais pas m'arrêter d'écouter, quoi.
Tu vois, c'est comme y a un humoriste, Bill Cosby.
Mm.
Je sais pas si vous en avez entendu parler.
Oui. Oui.
Mais qui pendant des années a charmé l'Amérique parce que justement il était drôle, il avait un peu la figure du paternel, un peu rassurante, un peu machin, et on découvre que ce mec est un prédateur sexuel de ouf.
Ah.
Tu vois, pendant des années. Et ça c'est aussi, c'est un scandale qui a éclaté et en fait qui a énormément terni son image. Et la question dans le monde de l'humour, c'était de se dire, voilà, est-ce qu'on arrive à toujours apprécier les sketchs qu'il a fait, qu'il a fait.
L'humour, c'est différent.
Alors qu'on sait que.
L'humour, c'est différent. Quand t'as le mec sur scène qui te parle, qui te fait des blagues.
Non, mais il ne faisait pas du stand-up, hein. Il faisait des films. Bah,
s'il y a de l'hypocrisie, s'il y a de l'hypocrisie à ce moment-là.
Ah, il était peut-être copain avec. Non, je.
Voilà, voilà, s'il y a de l'hypocrisie, par contre, là, c'est différent. C'est pas.
Bah, y a d'autant plus d'hypocrisie que le mec symbolisait vraiment une figure paternelle,
bah voilà,
tu vois, familiale, rassurante. Donc, à l'encontre totale de ses pratiques, en fait. Parce que lui-même, il abusait de son pouvoir. De célébrité, quoi.
Ouais, c'est un peu différent. C'est...
Après, dans la créativité, il y a peut-être un clivage entre ce que la personne est au quotidien et ce qu'elle peut être au contact de son art. Et l'art peut à un moment donné sublimer.
Transcender cette noirceur en autre chose.
Donc, pourquoi pas. Mais après, c'est vrai que la question de fond... Je trouve que ça complique beaucoup de connaître la personne quand on est intéressé par un artiste. Peut-être faudrait-il se limiter à la production de l'artiste. Je ne sais pas, c'est une grande, grande question.
Bah, c'est-à-dire que parfois, on ne va pas aller chercher les trucs, mais ils nous viennent, ils nous sont révélés, en fait, ces aspects négatifs. Et à partir de là, on ne peut pas faire comme si on l'ignorait. Une fois qu'on est
c'est
au courant...
C'est là que ça complique tout, je trouve aussi.
Mais
c'est
vachement
un débat
intéressant.
Infini. Exactement. Que nous avons lancé. Merci Adrien.
Non mais c'est passionnant parce qu'en effet, c'est très intéressant ce que tu soulèves aussi, Benjamin, sur la question du patrimoine culturel. C'est intéressant aussi sur le fait de dissocier ou pas ce que tu peux apprécier de l'artiste, tu vois, de ce qu'il est en soi. Et effectivement, c'est un peu infini. Mais c'est une question morale, c'est une question de choix aussi, c'est une question de à quoi t'es prêt à renoncer justement, jusqu'où t'es prêt à aller, ou comment tu fais la distinction, enfin, c'est complexe. Mais on va se quitter là-dessus. Et merci beaucoup pour tout ça. Merci Benjamin aussi d'avoir partagé ce que t'as dit tout à l'heure.
Merci.
C'était ouais, très fort. Et on va finir avec Light in Babylon, Baderer El Ayam. C'est de l'hébreu ça? Ah, c'est drôle. Baderer, ça veut dire marcher, cheminer. El Ayam, c'est quoi? Ça, je ne saurais pas dire. Et c'est quoi Light in Babylon?
Bah, c'est un groupe qui est une belle représentation de la mixité.
Mm-hmm.
Et leur musique, leur chant me touche beaucoup. Et voilà, je voulais. C'est pas très récent, hein, mais moi, je l'ai découvert il y a peu de temps. Donc, je voulais partager.
Magnifique. Bah, merci beaucoup pour la diversité. Light in Babylon, Baderer El Ayam. On va se quitter là-dessus. Donc, portez-vous bien et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Ciao.
Ciao.
Salut.